Pouvez-vous d'abord me dire en quelques mots qui vous êtes?
Alors, je suis médecin psychiatre, psychothérapeute, et je travaille entre autres sur les interactions entre les émotions et les cognitions. Et dans ce contexte-là, j'écris avec deux collègues psychiatres qui sont Nader Perrou à Genève et Bernadette Grosjean à Los Angeles, un livre intitulé Le manuel du borderline.
Pourquoi avoir choisi cette profession-là?
Pourquoi avoir choisi la psychiatrie?
Oui.
Parce que c'est une profession avant tout qui est extrêmement humaine en fait, et qui demande des compétences dans un tas de domaines. Tant de la médecine interne, la cardiologie, la neurologie, mais aussi des aptitudes, comment dire, humaines, et qui permettent de se poser sur son temps de travail différentes questions concernant l'existence même. Il y a très peu de professions qui permettent à la fois d'avoir une variabilité aussi importante du travail, qui permettent sur son temps de travail de se poser des questions et entrer à la philosophie, à l'éthique, et à toute une série de domaines qui m'intéressent finalement. Voilà.
Depuis combien de temps faites-vous cela?
Alors j'ai commencé mes études de médecine en 97, terminé en 2004, terminé ma spécialisation à Genève en 2009. Donc ça fait longtemps. Hein, voilà.
Comment décrivez-vous le trouble de la personnalité limite?
Alors, il y a d'abord une réponse quelque part un petit peu particulière, parce que c'est une réponse qui doit tenir compte des facteurs historiques dans lesquels elle a été décrite. Et là, les facteurs historiques sont particulièrement importants, dans la mesure où on voit que c'est une notion qui se définit d'abord comme étant une notion d'une catégorie de personnes qui ne rentrent pas dans un moule conceptuel prédéfini, à savoir les névroses ou les psychoses, et où elles se situent un petit peu entre les deux. Elles se situent à la limite, et à la limite, ça veut dire trouble limite, qui va être défini au fur et à mesure des théoriciens qui sont penchés dessus, à la fois par un trouble de régulation des émotions, et ça depuis déjà plusieurs dizaines d'années, donc ce n'est pas neuf, et par différents facteurs, hein, des facteurs d'image ou d'identité diffuse avec Otto Kernberg, différents facteurs ayant trait aux émotions, à différents traits de personnalité. Donc et toutes ces définitions sont à la fois correctes, mais se penchent souvent de manière partielle et non éclectique sur la situation clinique. Donc, il faut les décrire à la fois comme une entité nosologique, c'est-à-dire de connaissance d'une maladie définie historiquement et puis se cristallisant au jour d'aujourd'hui comme un trouble de régulation des émotions particulier avec différentes répercussions personnelles, interpersonnelles, pouvant donner différents comportements à risque, des abus de substances, des comportements suicidaires et autres. Et si l'on voit tous les symptômes qui peuvent être décrits, on comprend pourquoi parfois les diagnostics sont difficiles à poser, tant des personnes qui présentent par exemple une toxicomanie peuvent présenter ce trouble-là, des personnes qui présentent une dépression ou un trouble bipolaire ou un trouble bipolaire peuvent par exemple aussi avoir ce trouble-là. Donc il faut pouvoir à la fois avoir une lecture qui soit plus englobante des différents symptômes pour ne pas se dire qu'un symptôme signifie la maladie, mais qu'un symptôme peut faire partie d'un groupe de symptômes qui reflète quelque part une personnalité pathologique.
Donc, le trouble peut être lié à d'autres troubles aussi.
Vous pouvez avoir la présence de deux troubles. Hein. Vous pouvez être gaucher et boîtier du pied droit en même temps, hein, de la même manière. Vous pouvez avoir deux troubles différents. Vous pouvez avoir une bronchite et puis développer un cancer. Pour différents troubles. Et au niveau psychique, de la même manière, vous pouvez avoir un trouble bipolaire et avoir un trouble personnalité limite. Mais il se peut aussi que la manifestation qui ressemble à un trouble bipolaire ne soit en fait qu'une manifestation du trouble limite et qu'il n'y ait pas de vrai trouble bipolaire derrière. Donc ça nécessite de pouvoir faire la part des choses. Voilà.
Quels sont les principaux symptômes de ce trouble?
Alors, principaux symptômes, ils sont multiples et tellement nombreux qu'il faut quasiment un manuel ou en tout cas beaucoup de parties des classifications nosographiques pour pouvoir le faire. Mais si on en prend, donc les principaux, ça va être les troubles du comportement, troubles des impulsions, troubles de l'affection, de l'attachement, hein, avec des capacités d'attachement ambivalents, des troubles de l'identité diffuse, je vous disais tout à l'heure, les gens ne savent pas qui ils sont. Des troubles des conduites, donc tout comportement, ils vont se mettre en danger, ils vont consommer des drogues, donc des abus de substances, des troubles de l'humeur qui peuvent être là, des troubles liés aux relations avec autrui, avec certains aspects qui peuvent être parfois plus du côté de la manipulation ou de comportements qui peuvent être aussi psychopathiques, un sentiment de vide qui peut être là aussi, l'explosion, c'est encore lié aux troubles du comportement. Des antécédents ou des aspects corrélationnels de maltraitance, d'abus émotionnels, physiques, sexuels dans l'enfance, des gens qui ont été maltraités, abusés. Donc ça fait déjà pas mal de choses.
Pouvez-vous m'expliquer ce qu'il se passe au niveau du cerveau?
Alors, au niveau du cerveau, ben, il se passe différentes choses. On sait que ces troubles sont liés aux émotions. Donc, fatalement, si on étudie les émotions chez ces personnes-là, on voit qu'il y a des modifications dans les circuits qui s'occupent particulièrement des émotions. C'est assez attendu. Alors, grosso modo, on peut voir qu'il y a différents mécanismes, comme une anomalie du circuit frontal qui va être moins capable d'inhiber des régions plus profondes, comme les régions amygdaliennes ou faisant partie du système limbique qui est impliqué dans les émotions. On peut voir aussi que l'activité dans différentes régions émotionnelles, comme dans les amygdales, va être très fortement modulée, modulable, et probablement plus modulable et répondre plus favorablement à des dispositifs psychothérapeutiques que des personnes qui ne sont pas atteintes de ce trouble-là et qui vont moins répondre finalement à un changement psychothérapeutique. D'où c'est un petit peu comme si comment dire, dans la situation, il y avait à la fois le poison et l'antidote. Hein, que le cerveau est très réactif aux émotions et va pouvoir parfois simplifier à outrance des stimuli émotionnels qu'il peut percevoir, mais aussi pouvoir réagir de manière positive via des mécanismes psychothérapeutiques de manière beaucoup plus forte ou beaucoup, de manière beaucoup plus intense qu'une personne qui n'aura pas ce trouble-là. Voilà.
Y a-t-il des éléments déclencheurs de ce trouble?
Alors, des éléments déclencheurs, la temporalité de ce trouble n'est pas une temporalité qui est, comment dire, immédiate. C'est pas le virus Zika, hein, vous n'êtes pas juste piqué par un moustique qui peut vous développer le trouble. C'est une pathologie qu'on va appeler développementale. Ça veut dire qu'il faut du temps pour que la personne vive certaines choses, grandisse. Et la relation, des pathologies de la relation, de l'attachement, sont des choses qui se développent progressivement. Donc, dans les facteurs déclencheurs, on va essayer d'identifier des causes brutales, traumatiques éventuellement, mais également des causes héritées, génétiques, ou encore des facteurs sociaux qui vont pouvoir jouer un rôle. Donc la temporalité est particulière dans les facteurs sociaux. Il y a la diminution des repères hiérarchiques, la transformation de la société qui passe du modèle matriarcal il y a très longtemps, puis patriarcal, à des modèles plus horizontaux, avec une perte de repères, une perte de limites, hein, au sens propre du terme. D'un point de vue génétique, on sait que certains gènes sont impliqués dans la régulation des émotions et peuvent donc fatalement être impliqués dans ce trouble-ci et auront donc un rôle. On sait aussi que certaines expériences traumatisantes, pas forcément un abus sexuel ou physique, mais comme une famine, hein, d'être déplacé, d'être déporté, d'être réfugié suite à une guerre, vont être des facteurs qui peuvent être transmis à la fois dans les, dans les gènes de la personne qui les souffre, mais à la fois au niveau des enfants, et parfois pendant plusieurs générations. Donc il peut y avoir des modifications génétiques ou épigénétiques qui peuvent se marquer et être transmises. Donc, je dis également, donc, les abus, la négligence peuvent être également aussi des facteurs importants à prendre en compte.
Comment diagnostiquer une personne borderline?
Alors, il y a différentes échelles en fonction des référentiels. Hein, il y a des référentiels qui n'utilisent pas d'échelle non plus et qui, d'un point de vue clinique, vont essayer de passer en revue quelle est la structure de personnalité. Il peut y avoir une structure, exemple pour les psychanalystes freudiens, hein, une structure névrotique, une structure psychotique, une structure limite. Hein, cette structure de personnalité limite n'existe pas pour les psychanalystes lacaniens, par exemple. Donc, en fonction du référentiel, vous allez avoir une conceptualisation différente et puis une méthode d'évaluation de ces symptômes-là différents aussi. Donc, il n'y a pas de méthode univoque, et ce qu'on propose finalement dans le manuel, c'est une sorte de cartographie pour pouvoir s'y retrouver là-dedans, avec de fait différentes échelles. Pour pouvoir mesurer différents paramètres et pouvoir avoir un regard critique et qui ne soit pas monolithique, finalement, sur une question qui est complexe. Ouais.
Est-ce qu'un diagnostic précoce peut-il favoriser une guérison plus rapide?
Alors, le diagnostic précoce ne sera pas un diagnostic de trouble limite, naturellement, un trouble personnalité, parce que pour avoir une personnalité, et un trouble personnalité, il faut, comme j'ai dit tout à l'heure, comme c'est un trouble développemental, il faut se développer. Plus on prend les choses tôt, moins les choses se seront structurées. Ce qu'on va pouvoir voir précocement, c'est des difficultés peut-être non spécifiques de régulation des émotions, des difficultés peut-être de consommation, peut-être déjà différents éléments qui sont présents. Et je dirais de manière générale, toute chose étant prise précocement a plus de chances d'être aidée. Par contre, l'aspect défavorable de cela, c'est que si l'on considère précocement qu'une personne souffre d'un problème, c'est aussi l'emprisonner dans des idées, dans des pensées, dans des groupes, dans des traitements, alors que la personne peut-être manifeste des symptômes qui sont le résultat de l'environnement dans lequel elle se trouve, environnement social, environnement culturel, environnement sociétal, qui ne met plus forcément des limites comme ça, qui favorise peut-être une expression émotionnelle à tout va lors d'émissions de télé-réalité, lors de fêtes, lors de ceci, cela. Donc, il y a à la fois avoir l'individu, mais avoir la société et la norme qui est favorisée là-dedans. Et le fait de détecter précocement, bien sûr, si on vous soigne précocement d'un cancer ou d'un diabète ou d'une grippe ou de toute autre affection, bien sûr que c'est plus intéressant. Si on considère dès le début que vous êtes atteint de quelque chose pour un trouble psychique, on vous caractérise, on vous catalogue et on risque de vous stigmatiser aussi d'une certaine manière. Donc ça a des conséquences. Il faut voir le positif et le négatif et le compromis qui peut être fait entre les deux, qui ne sera pas la même chose d'un médecin à l'autre et d'un théoricien à l'autre.
Quelles sont les différentes thérapies envisageables?
Alors il y a toute une série de thérapies envisageables, qu'elles soient cognitives ou comportementales, familiales, ou comment dire, psychanalytique, hein. Il y a la thérapie focalisée sur le transfert, mise en avant par Otto Kernberg et puis développée aussi fortement par Frankie Omanes. Il y a la thérapie comment dire, comportementale dialectique de Marshall Linehan. Il y a la thérapie basée sur la mentalisation de Batman et Fonagy à Londres. Il y a différents donc, types de psychothérapie qui vont avoir pour but de structurer les choses, de diminuer le risque de passage à l'acte d'automutilation, etc. Et puis de favoriser l'accès à ce qu'on appelle le mental, la réflexion, la représentation de ce que sont les choses. Donc c'est différents types de psychothérapie, il y a différents types de traitements, mais le traitement n'est pas une fin en soi. Le traitement traite les conditions qu'on appelle comorbides, donc qui arrivent en plus. et permet quelque part éventuellement de pouvoir faire une psychothérapie. Donc la base du traitement, c'est la psychothérapie, et les traitements sont là pour pouvoir aider la situation à pouvoir, le patient, pardon, à pouvoir, dans cette situation, à suivre une psychothérapie ou soigner des causes comorbides, donc se présentant en plus, par exemple, s'il y a un trouble bipolaire en plus, s'il y a une dépression en plus, on peut aider la personne aussi avec des médicaments, mais encore une fois, les médicaments, c'est une chose, mais l'aspect relationnel est extrêmement important.
Arrive-t-on à diminuer l'intensité des symptômes afin de vivre normalement et avoir des relations normales avec l'entourage et la société?
Alors les symptômes diminuent d'eux-mêmes. Il y a des études qui ont montré qu'après 16 ans, donc 16 années, eh bien, les personnes qui correspondaient à une grille de troubles ne vont plus correspondre à une grille de troubles après ça. Ce qui veut dire que d'elles-mêmes, donc sans consultation, d'elles-mêmes, elles auront été en contact avec des personnes, avec des situations qui auront fait en sorte qu'elles ne vont plus être considérées comme répondant aux critères. Mais, à condition que les personnes soient toujours vivantes, un, deux, quelle est la souffrance que ça a engendrée pour elles-mêmes, pour leurs proches, pour leur famille? Trois, dans quelles circonstances professionnelles, financières se trouvent-elles aussi au bout du compte? Donc il faut bien mettre ça en place. Alors oui, les thérapies sont efficaces, oui, les thérapies diminuent les risques de passage à l'acte suicidaire et aident les gens à mieux vivre. Il y a des grandes études qui ont été faites sur ce sujet-là. Il y a des moyens d'aider les gens et il faut les mettre en place. Il faut que les gens soient formés à le faire, tout simplement.
Est-ce que la famille peut jouer un rôle dans la thérapie?
Alors, la famille joue toujours un rôle dans la mesure où, dans des pathologies qui ont comment dire, un accent mis sur l'attachement, l'attachement lié à la famille est important. Une personne n'est jamais seule, elle est là avec son entourage. Alors, est-ce que les parents, est-ce que les proches deviennent des thérapeutes? Non, je dirais chacun son rôle. Il faut que la famille soit la famille, il faut que les proches soient les proches et jouent bien sûr un rôle. S'ils sont rejetants, s'ils sont trop accueillants, s'ils sont trop intrusifs, ça peut venir aussi perturber. Mais s'ils ne sont pas là, ça peut venir aussi bien sûr perturber. Donc la famille joue un rôle à la fois dans une connaissance de ce qu'est la pathologie, hein, dans une prise de connaissance pour pouvoir ne pas intervenir à mauvais escient éventuellement, mais sans se substituer ou s'improviser comme étant des thérapeutes, ou sinon ils perdent d'un coup leur rôle de proche. Hein, on ne peut pas être à la fois le proche et le thérapeute d'une personne. Voilà.
Pourquoi certains patients doivent faire un séjour en institution et quel en est l'avantage?
Alors une institution peut proposer différentes choses. À la fois quand il y a un danger trop important pour la personne qui risque de se tuer, par exemple, hein, et que rien en dehors d'une institution ne peut contenir un risque qu'on va appeler de passage à l'acte auto-agressif, ben, l'institution peut être là pour canaliser ce risque de passage à l'acte. Donc ça, c'est un des avantages de l'institution. Si quelqu'un se blesse de nombreuses fois, ben, il est possible qu'à la fin, sans le vouloir, la personne se tue. Sans le vouloir, ce qui est terrible, sans le vouloir, même si une personne disait j'ai envie d'en finir, j'ai envie d'en finir, et que les coupures ne sont pas des coupures propres à être tué, il peut y avoir des surinfections, il peut y avoir des accidents parce que les gens se tuent sans faire exprès, et donc ces circonstances-là sont dommageables, bien sûr. Voilà.
Cette maladie est peu connue du grand public. Qu'en est-il en Belgique?
Alors en Belgique, bon, ben les psychiatres connaissent bien ça, les psychologues, j'imagine, doivent bien connaître ça également, et les personnes qui en souffrent peinent souvent à trouver une information cohérente et utile et qui les aide. Alors moi, dans ma pratique clinique, je suis régulièrement confronté à des personnes, soit qui viennent me trouver et qui ont des difficultés, soit à des familles, hein, qui ne comprennent vraiment pas ce qui arrive à leurs enfants et comment pouvoir l'aider. Donc, je pense qu'il y a une éducation à faire, mais encore une fois, il ne faut pas que cette éducation devienne un endoctrinement. Je me souviens d'une famille qui m'avait dit à un moment donné, qui avait interdit à. Donc, la jeune femme avait trouvé le livre, et puis avait commencé à se dire, ah bah tiens, voilà, quelqu'un ou des gens qui comprennent un peu ce que j'ai et qui peuvent m'aider. Et puis la famille avait interdit à la, à à leur fille donc de lire Emmanuel en disant, mais non, c'est en lisant ça que tu vas développer tout ça en fait. On t'apprend comment il faut faire pour développer tout ça. Ce qui montre quelque part aussi la peur et la limite quelque part d'un ouvrage qui peut décrire. Hein. Voilà, c'est toujours difficile et délicat. Hein. L'entourage va parfois vouloir ne pas voir les choses, parce que quand on voit les choses, elles sont là, tout simplement. Donc c'est ça la difficulté, à la fois d'un point de vue d'un mécanisme qu'on appelle le déni, éventuellement pour l'entourage. On n'a pas envie qu'un de nos proches soit malade, on ne veut pas le voir, hein, c'est ça. Et puis, à la fois d'un point de vue soignant, c'est de dire, bah, finalement, s'il y a un diagnostic qui est posé à un moment donné, il y a immanquablement, éventuellement, une identification. Et puis le troisième acteur, qui est le patient lui-même, s'il y a un diagnostic qui est posé à un moment donné, il y a une identification à ce diagnostic qui peut cristalliser la situation pour le patient et donc l'empêcher d'avancer plus vite, si jamais ce n'est pas accompagné d'une thérapie, bien sûr.
Existe-t-il des associations pour aider les patients et leurs familles?
Alors, il existe des associations de troubles de personnalité difficiles, des associations de patients présentant un état limite, oui.
La thérapie est-elle longue et coûteuse?
Alors, la thérapie, elle est longue et coûteuse quand c'est pas remboursé. On a la chance d'avoir un système de sécurité sociale qui vaut ce qu'il vaut en Belgique, mais qui est beaucoup mieux que dans beaucoup d'autres, dans de nombreux autres pays. Et dans cette mesure-là, oui, parce qu'on ne transforme pas la vie de quelqu'un qui a mis des années à se développer d'une certaine manière, on ne la transforme pas en deux coups de cuillère à peau. Ça nécessite de l'implication, du travail, de la réflexion, et ça, ce sont des processus qui prennent du temps. Alors, naturellement, quand ça prend du temps, c'est coûteux, parce qu'il faut payer de son temps, être présent. Il faut également ben, payer les consultations, que ce soit chez des psychologues, que ce soit chez des psychiatres. Encore une fois, le système de santé en Belgique est très favorable à pouvoir aider ces personnes-là. Si c'est des psychothérapies très longues qui ne sont pas remboursées, par exemple, aux États-Unis, ben oui, là, on va parler aussi de difficultés dans l'accès à des soins, d'où la nécessité de recherche de méthodes qui soient praticables par beaucoup de personnes et qui ne soient pas trop coûteuses. Ouais.
Donc il y a des remboursements au niveau des médicaments aussi.
Alors, oui, hein, en Belgique, alors non seulement, y a comment dire, un petit bémol, c'est qu'à la fois, il n'y a aucun médicament qui va avoir l'indication officielle peut être prescrit dans le trouble de personnalité limite. Ça, c'est important à savoir. Hein, chaque médicament a des critères de remboursement, il n'y en a aucun. Donc, ça veut dire que c'est prescrit en dehors de la notice. Mais il y a de très 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 nombreux médicaments qui sont prescrits en dehors des notices. Ça c'est une première chose. De manière générale, pour les médicaments, il y a une partie qui est remboursée en Belgique. Et puis pour les psychothérapies, que ce soit chez un psychologue ou un psychiatre, il y a une partie qui est remboursée aussi. Donc il y a une aide quand même qui est importante, qui est consentie par l'État, c'est-à-dire par la solidarité des citoyens. Hein. Pour pouvoir prendre en charge mais tout type de pathologie, donc pas exclusivement cette pathologie-ci. Hein.
Est-ce que la consommation d'alcool, de tabac, de drogue intensifie le trouble?
Alors, c'est à la fois un symptôme du trouble, des personnes qui se sentent vides et qui vont se remplir avec de la drogue, différentes substances, mais c'est aussi un facteur d'aggravation, parce qu'on sait que quelqu'un qui va consommer, par exemple, de l'alcool, puisque vous citez cet exemple, va avoir moins de capacité à réfléchir, va être plus impulsif. Donc ça va intensifier différentes difficultés. Donc ce sont des choses à travailler. Voilà.
Et d'un point de vue biologique, qu'est-ce que ça peut changer?
Par rapport à quoi?
Ben, s'il y a consommation de drogue ou...
Ben, si la consommation de drogue, la drogue, l'alcool viennent comme des réponses immédiates à une difficulté, à une tension insupportable. C'est tellement efficace pour diminuer la tension que les gens vont recommencer. Puis avoir toutes les conséquences liées aux substances. Hein. L'alcool agit sur l'entièreté des systèmes somatiques, que ce soit la mémoire, le cerveau, que ce soit la peau, que ce soit les os, que ce soit les muscles, que ça agit sur tout le corps, hein, l'alcool. Donc c'est une molécule qui agit, qui a vraiment beaucoup d'effets secondaires. les drogues également. Donc, on va avoir toutes les conséquences biologiques, mais aussi psychiques et sociales de la consommation de ces substances-là.
Certains patients arrivent parfois à se faire du mal physiquement, donc scarification ou automutilation. Que se passe-t-il? Pourquoi ils font ça?
Là, de la même manière, la scarification, l'automutilation est souvent un moyen extrêmement efficace de diminuer une tension physique insupportable, une tension psychique insupportable. C'est tellement efficace que les gens vont recommencer à le faire. Donc, à la fois, c'est une tentative de diminuer une tension importante, mais également, c'est tentative qui n'est pas très fonctionnelle. Ainsi, pour diminuer votre tension, pour réguler vos émotions, vous devez à chaque fois vous blesser. Ben, ça a des conséquences importantes, relationnelles, parce que les autres se demandent quoi, personnelles, parce que vous allez avoir des lésions sur votre corps. Vous pouvez vous infecter, vous pouvez vous couper une veine, un nerf, ou tout ce que vous pouvez imaginer. Vous pouvez avoir des lésions qui vont dépasser le simple fait de diminuer la tension.
Peuvent-ils parfois en arriver à être si violents envers les autres qu'ils doivent répondre de leurs actes devant les tribunaux?
Alors, toute violence de n'importe qui, les gens doivent toujours répondre de leurs actes. Hein, ils sont déclarés capables ou non capables à un certain moment donné, mais toute violence envers autrui nécessite qu'une personne réponde de ses actes. Hein, puis y avoir des expertises, etc. Maintenant, ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas du tout la majorité des cas des patients, et ça peut être considéré aussi comme une sorte d'idée préconçue ou d'un mythe que les personnes qui souffrent de ça vont être systématiquement des gens violents, dangereux, qui vont vous poursuivre, qui vont, etc., etc. Ça peut être aussi un mythe par rapport à ça, mais de manière générale, une réponse générique serait que toute personne qui agresse une autre devra répondre à un moment donné de ses actes. Après ça, est-ce qu'elle sera considérée comme capable ou pas capable? C'est une autre question.
Mais il n'y a rien de spécifique au borderline dans ce domaine-là.
Par rapport au fait de devoir répondre à ses actes, hein,
Oui.
non, ce sont des personnes comme des autres, hein, comme les autres, et doivent répondre de leurs actes s'il y a des choses qui se font. Hein.
Ne pensez-vous pas que c'est aussi la vie actuelle trépidante dans une société en constante mutation qui crée des personnes borderline? Ou bien est-ce que le milieu extérieur n'a pas beaucoup d'impact?
Le milieu extérieur a beaucoup d'impact, bien sûr. Il y a à la fois un modèle d'identification par rapport à ce qui est là. Et puis, je vous le disais tout à l'heure, hein, la perte des repères, la perte de ce qu'on appelle le nom du père, hein, et de la hiérarchie ou de la structuration de la société peut contribuer à diminuer les limites et à faire en sorte que les gens cherchent aussi leurs limites. Donc, là, oui, les aspects sociaux. Les aspects socioculturels sont extrêmement importants.
Au final, peut-on vraiment sortir de cette maladie? Ou au contraire, est-ce toute sa vie prédisposée à rechuter?
Alors, on peut sortir de la maladie, on peut se soigner. Je disais tout à l'heure que sans rien faire, au bout de 16 années, les gens vont mieux. Mais à quel prix? C'est ça la question, hein. Pour beaucoup de choses aussi, hein. Vous pouvez avoir une très grosse grippe, et puis au bout du compte, vous allez mieux. Mais à quel prix? Qu'est-ce que vous auriez dû traverser? Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'améliorer ça? Donc c'est ça aussi la question. Donc oui, il y a moyen d'améliorer. Alors oui, si vous avez une vulnérabilité émotionnelle, il se peut qu'il y ait des conséquences et une fragilité qui préexistait et puis qui va peut-être continuer après. Mais vous allez pouvoir certainement vivre et apprendre à vivre autrement. Oui. Donc ça, il y a de l'espoir et c'est ça qu'il faut en retenir. Oui.
Pensez-vous que de nouveaux traitements peuvent encore être mis en place?
Alors, niveau traitement psychothérapeutique, certainement, médicamenteux peut-être, dans la régulation des émotions, mais dans ce trouble-là, c'est la psychothérapie, c'est la relation qui est à l'avant-plan et pas les médicaments.
Quel message essayez-vous de faire passer dans vos conférences?
Alors, la première chose, bah, c'est tout ce que je vous ai dit, alors, d'abord, hein, pour résumer, pour ne pas trop me répéter. La première chose, à travers le livre que j'ai fait avec mes collègues, hein, que nous avons fait, c'est de pouvoir rappeler que la première étape, si on veut s'en sortir quand on a un problème, c'est d'être conscient des problèmes et de pouvoir se pencher sur la situation pour pouvoir décider de d'avoir une intervention à un moment donné. Donc la prise de conscience, la prise de connaissance, l'information est la première étape pour s'en sortir. Et ça, c'est vraiment ce qu'il faut garder à l'esprit par cette démarche de manuel que l'on a fait. Ensuite, voilà, le second message, c'est qu'il y a de l'espoir, il y a des méthodes qui marchent. Et on connaît de mieux en mieux ce trouble-là. Il y a des méthodes qui marchent, il y a des prises en charge qui sont efficaces et qu'il faut pas rester à souffrir, il faut se faire aider.